France Inter, franceinter.com. CO2 mon amour, avec Paprec, recyclage des déchets des industries et des collectivités.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, donc jusqu'à 15h avec Cédrine Lalac et Loïc Frapsos à la technique. Et c'est Jean-Christophe Pinaza qui nous accompagne, ainsi que Jean-Baptiste Audibert, et l'émission est réalisée par Xavier Pestugia. Alors, une petite humeur un peu massacrante quand même, 7 jours après le passage du cyclone Nargis sur la Birmanie, parce qu'au pays d'Aung San Suu Kyi, donc cette semaine, 1,5 million d'habitants d'une des régions les plus pauvres de la planète se sont retrouvés sans abri, sans eau, sans nourriture, pendant qu'une bande de galonnés dictateurs s'efforçait de retarder l'arrivée des équipes de secours venues de l'étranger. Alors, catastrophe humanitaire ou pas, l'important c'était de dire oui au référendum organisé par la junte militaire « The show must go on », comme on dit. Traduction, ils n'ont plus de riz, qu'ils mangent des bulletins de vote. Alors je vous le demande, où est-ce qu'ils étaient donc les généraux birmans le 27 avril au matin, 5 jours avant le cataclysme, quand les satellites ont pris les premières photos du cyclone Nargis dans le golfe du Bengale? Où étaient-ils le 1er mai quand les services météo indiens ont annoncé une très probable catastrophe? Où étaient-ils cachés donc les soldats, chasseurs de bonzes qui n'avaient pas cessé de patrouiller les rues à l'approche du référendum quand s'est pointée une vague de 6 mètres de haut, une vague qui a tout balayé sur son passage, on le sait, sur 200 km d'un bout à l'autre du delta de l'Irrawaddy, avec une altitude quand même moyenne frôlant le zéro. Où étaient-elles cette semaine les troupes armées quand, avec ses millions de kilomètres carrés inondés, le grenier aride de la Birmanie s'est retrouvé noyé sous 1 mètre d'eau? Et où seront-ils demain donc les grands maîtres de ce pays quand il s'agira de compter les victimes qu'on aurait pu éviter? Alors vous me direz, Katrina en Louisiane 2005, Gorky en 91, Cidre l'année dernière, au Bangladesh, les ouragans, les cyclones, les typhons, après tout, c'est la faute à Mère Nature. Parce que réchauffement climatique ou pas, quand l'atmosphère terrestre se transforme en cocotte minute au niveau des tropiques, eh bien, la machine climatique fait ce qu'elle peut pour empêcher la surchauffe. Les cyclones, en effet, ce sont un peu des soupapes de sécurité du système. Des monstres d'usines à vapeur d'eau qui pompent la chaleur des eaux tropicales et les relâchent dans l'atmosphère. Mais plus l'eau sera chaude et sûrement liée au réchauffement climatique d'origine humaine, eh bien plus le cyclone se régalera, prendra de l'énergie, sera violent. Et les colosses de la catégorie Nargis Katrina déploient sur leur passage une puissance à faire baver d'envie toute une génération de docteurs Folamour assis sur leur stock d'ogives nucléaires. Et ce n'est qu'un début, car chaque fois que l'on taille dans les mangroves le long des golfes clairs, les cyclones et les tsunamis pénètrent plus loin à l'intérieur des terres. Alors, en attendant l'invention qui nous protégera de la connerie humaine, dites-nous, Mère Nature, à ton avis, il en faut combien des vents violents et des victimes pour faire tomber les dictatures? Notre invité, vous l'avez compris, Noël Mamère. Bonjour Noël Mamère.
Bonjour.
Ravi donc d'être avec vous. Vous aussi évidemment que vous vous intéressez à ces problèmes depuis très très longtemps. Peut-être une réaction par rapport à la Birmanie aussi?
Oui, bien évidemment, parce que c'est un très bon exemple du lien indissociable entre les questions liées à l'écologie et les questions de droits de l'homme. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la junte militaire empêche les secours qui sont d'une grande nécessité. Il y a à peu près 1 million de personnes qui sont concernées par cette catastrophe, dont l'ampleur a pris des proportions absolument épouvantables, notamment à cause de l'orientation de l'agriculture. Vous avez parlé tout à l'heure des mangroves le long des golfes clairs. Si l'on se souvient de ce qui s'est passé en Thaïlande, on s'aperçoit que la Thaïlande, qui est devenue le premier pays producteur de crevettes, a supprimé totalement les mangroves qui servaient de frein et de protection aux populations, et que les forêts de mangroves, qui sont des écosystèmes extrêmement fragiles, qui sont des forêts dans l'eau saumâtre, qui sont aussi extrêmement riches pour la biodiversité, elles ont aussi disparu. En Birmanie, elles ont été, et cette disparition a été un des éléments d'une catastrophe qui a pris encore plus d'ampleur et qui a fait encore plus de victimes. Donc il faut que nous prenions conscience, avec le réchauffement climatique, que l'on ne peut plus se permettre de se lancer et de poursuivre dans des types d'agriculture qui de plus affament en général les paysans que l'on force à l'exportation. Vous avez dit que la Birmanie faisait partie des pays qui que l'on considère en Asie comme des greniers à riz. Eh bien, c'est terminé. et que l'on prenne conscience également que l'on ne pourra pas durablement poursuivre dans une ligne qui consiste à pas tout simplement à essayer de chercher le profit à court terme. Oui, et c'est le court-termisme et c'est cette recherche, j'allais dire quasiment désespérée sur le dos des plus pauvres, qui conduit aussi les combats que nous menons.
Alors, il y a un homme que vous connaissez, et on va tout au long de cette émission donc le retrouver, c'est entre autres René Dumont. Et donc cet homme-là, on va déjà écouter sa voix, et écouter parce qu'on était déjà en 1975.
Nous avons encore 10 à 15 ans pour changer toute l'orientation de notre technologie. Si on ne change pas d'ici 10 à 15 ans, les actions sur les climats risquent de prendre des attitudes irréversibles. Donc, il est grand temps.
Pourquoi ne pas se servir du progrès pour gagner la bataille de l'environnement ?
Qu'est-ce que vous appelez le progrès ?
Vous dites que vous êtes contre la croissance, etc.
Ah non, je suis contre certaines formes de croissance, je suis pour une autre forme de croissance. Le progrès, on n'arrête pas le progrès.
En réalité, vous voulez arrêter la planète ?
Mais non, on ne veut pas arrêter la planète. La planète tourne toujours. La planète, en ce moment, va à la mort. Alors nous voulons arrêter la course à la mort de la planète. Ce n'est pas la même chose.
C'était dur de convaincre à l'époque. Hein.
C'est vrai, ça l'est encore. Ça l'est toujours. Sauf avec quelques journalistes avertis comme vous. Tout est dit par René Dumont. Simplement, je pense qu'il faut que nous soyons très attentifs à ce que nous disons aux Français, à l'opinion. Il ne faut pas donner le sentiment que les écologistes, les Verts en particulier, seraient des annonciateurs de catastrophes. Mmh. Moi, je pense que nous avons beaucoup plus de raisons d'espérer que de désespérer de l'humanité. Que nous sommes dans une situation difficile. Il y a une véritable menace sur la planète et sur l'espèce humaine.
Mais il y a des portes de sortie.
Entourage. Mais il y a des portes de sortie. Et c'est à l'humanité de trouver les moyens d'en sortir. C'est la raison pour laquelle René Dumont avait raison dès les années 75 de dire « Mais c'est quoi le progrès ?» Si le progrès, c'est aller pêcher des crevettes au Danemark et les décortiquer au Maroc avec je ne sais pas combien de tonnes d'équivalent pétrole qui les accompagne, si c'est vouloir manger des kiwis d'Australie qui sont 3 tonnes d'équivalent pétrole lorsqu'ils arrivent sur votre assiette, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc nous savons qu'il y a des pistes. Et ces pistes, tout le monde les connaît. Tous les grands pays les connaissent. Et le rôle des pays développés, c'est de ne plus servir d'exemple de gaspillage et d'une consommation totalement débridée aux pays émergents.
Parce que ce sont les modèles que l'on envoie. Hein,
oui, c'est ce que les pédants vont appeler des paradigmes. Ce sont les exemples que suivent les pays du Sud. Et nous devons leur laisser une deuxième chance. Et laisser une deuxième chance à ces pays, c'est essayer de les aider par le transfert de nos technologies, par notre savoir. Ils en ont aussi, bien évidemment. Les Chinois, les Indiens nous donnent beaucoup de leçons. C'est d'essayer de les aider à s'orienter vers des économies et des sociétés qui soient moins gourmandes, moins gaspilleuses, plus généreuses, c'est-à-dire qui partagent plus.
Alors Noël Mamère, comme vous connaissez cette émission, vous connaissez bien sûr Jean-Marie Pell, qui est quand même aussi sur quand même pas mal de fronts et d'un certain nombre de combats. On reviendra à la fin de l'émission sur les OGM, là aussi c'est un de vos points communs à tous les deux. C'est un magazine de nature et d'environnement. Alors on va prendre le côté nature, on va se prendre une petite bouffée. J'allais dire, vous allez voir cette plante que vous connaissez, cet arbre que vous connaissez, parce que ça ne vous a pas échappé Jean-Marie, la saison du renouveau est là.
Nous sommes au printemps et nous allons explorer les fleurs du printemps.
Elle comme Lila, dans notre abécédaire avec vous, cher Jean-Marie Pelt, donc fleurs de printemps, comme beaucoup d'entre elles. Il vient d'où ce lila ?
Probablement de Perse, mais il s'est exporté il y a sans doute très très longtemps en Turquie. Et il a été une fleur tout à fait symbolique et appréciée des grands sultans, et en particulier de Soliman le Magnifique, qui paraît-il l'aimait beaucoup. Il a été vu et décrit pour la première fois par un certain Pierre Belon, qui est un botaniste français, qui était le premier à découvrir les plantes du Proche-Orient et de la Terre Sainte, et qui a ramené en France les premiers platanes.
Oui, donc il a couvert les routes de platanes.
Non, c'est Napoléon.
Oui, c'est après.
Il en a planté seulement quelques-uns. Ouais. Et c'est à partir de Napoléon que nos routes se sont effectivement couvertes de platanes. Alors, le lilas, il n'en a pas ramené, mais il a été ramené par un ambassadeur italien de Busbecq, qui se les est fait offrir par le fameux Soliman le Magnifique, qui était l'ami de François Ier, quand on s'est tout d'un coup amouraché des Ottomanes, à l'époque du Grand Turc, n'est-ce pas ? Et il est arrivé en Europe, et en France en particulier, et il a fait une carrière extrêmement importante au XIXe siècle. Ah. Le XIXe, c'est amouraché du lilas. Oui. Il a un peu décliné après ça parce que on a considéré qu'il avait un défaut, c'est qu'il ne fleurissait pas assez longtemps. Mmh. Alors il y avait un horticulteur qui a dit mais c'est pas grave, comme ça on a 11 mois pour en rêver et un mois pour le regarder.
C'est très joli, mais déjà on était dans l'époque du toujours plus.
C'était toujours ça. Et on a fait effectivement toujours plus de lilas, puisque Victor Lemoine, qui est le grand horticulteur de Nancy, au siècle avant-dernier maintenant, et au début du siècle dernier, a réussi, en faisant de la sélection, à produire plus de 200 variétés différentes de lilas. Oui. Et ces variétés se distinguent par deux caractères. D'abord les couleurs, la couleur lilas.
Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs ?
Lilac en persan, ça veut dire couleur mauve.
D'accord.
Donc le lilas porte le nom de sa couleur.
À l'origine, mauve, il n'était pas blanc.
Il était mauve. Oui. Et il y a des lilas qui sont blancs, il y a des lilas qui sont mauve foncé, ce que je préfère, moi, un mauve fort.
Soutenu.
Soutenu. Et puis, il a aussi développé des lilas doubles, oui, dont les fleurs ont cette fois-ci 8 pétales au lieu de 4, parce qu'il y a une étrangeté dans le lilas, c'est qu'il a une architecture florale très particulière, qui appartient aux plantes de sa famille. La grande majorité des plantes à fleurs ont 5 pétales, il n'y en a que 4. Et la grande majorité des fleurs aussi ont 5 étamines, il n'y en a que 2. Alors il y a des fleurs qui ont 3 pétales et 3 étamines, mais 2 c'est très rare, c'est caractéristique de ce groupe. Et curieusement, vous savez comment elle s'appelle cette famille ? C'est pour montrer qu'il y a des choses étranges dans la botanique. Elle s'appelle la famille des Oléacées.
Ce qui nous rappelle l'olivier quand même.
Du nom de Oléa, oui, qui est le nom de l'olivier. Alors un olivier, ça ne ressemble pas du tout à un lilas. Oui. Et les fruits sont extrêmement différents. Les fleurs sont toutes petites dans l'olivier. Mais elles sont construites sur cette architecture. Alors les fruits, ben, les olives, tout le monde connaît, avec un gros noyau. Mmh. Dans le lilas, le fruit, c'est une petite capsule sèche qui s'ouvre par 2 valves. Dans le frêne, qui appartient à cette même famille, le fruit, c'est un petit fruit sec avec une belle aile qui fait que quand le vent l'emporte, il tourbillonne. Ouais. Hein, vous voyez ça. Les troènes, c'est une petite baie. Alors voilà une famille très étrange où il y a une stabilité absolue dans l'architecture de la fleur et la plus grande des fantaisies en ce qui concerne la nature du fruit. Voilà.
Et alors, en plus, ce n'est pas un arbre qui est rancunier, parce que lorsque vous le taillez parfois un petit peu mal, eh bien, il repousse quand même. Il est généreux. Quoi.
Il a un bon fond, un arbre d'une grande vigueur.
Ouais.
C'est peut-être ce qui a inspiré la création de la commune suburbaine des Lilas.
Ouais, oui.
Vous savez,
Porte des Lilas aussi.
Et la Porte des Lilas. Ouais. Et vous savez que Serge Gainsbourg avait...
Poinçonneur des Lilas, mais bien sûr, je vais vous aider. Parce que,
oui, avait épousé la cause du poinçonneur des Lilas.
On ne sait plus ce qu'est un poinçonneur aujourd'hui, donc laissez tomber.
Dans une chanson célèbre.
Mais bien sûr, c'est absolument. Ça. Voilà. Bon, bah, écoutez, un grand merci à vous. Et puis donc, bah, c'est pas mal pour inaugurer le printemps donc, avec ce Lilas. Et moi, je peux vous renvoyer donc, à cet ouvrage de fond qui s'appelle « La beauté des fleurs et des plantes décoratives ». C'est édité au Chêne. Et c'est signé notre bon Jean-Marie Pelt, que l'on retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Voilà, alors, ode à la nature, peut-être, oui, mais c'est vrai qu'il en a chanté d'autres quand même, ça nous a fait très très plaisir, ça. Et à vous aussi, Noël, ma mère, de retrouver donc Serge Gainsbourg.
Ah oui, oui. C'est un lieu commun de dire qu'il avait une certaine forme de génie, c'était en tout cas un grand poète.
Oui, oui, c'est un grand mec. Et on va retrouver René Dumont parce que on est en 1974. Il faut dire que les choses sont un peu accélérées, donc il y a eu la mort de Georges Pompidou et ça a précipité en fait l'entrée en lice de l'écologie politique. Donc on va bien faire la différence entre l'écologie scientifique d'un côté, comment c'est devenu de l'écologie politique. On verra qu'il n'y a pas qu'une personne, c'était un sacré melting pot, hein, tout ça. Donc René Dumont en 74 et qui nous dit pourquoi, donc professeur d'agronomie, hein, qui venait de publier L'Utopie ou la mort et qui nous donne le sens de sa candidature.
Cette signification, c'est de défendre des points de vue qui ne sont pas défendus par les autres candidats, celle d'une menace extrêmement grave qui pèse sur notre civilisation, celle qu'exprime l'ensemble des associations écologistes françaises qui s'inquiètent de plus en plus de voir une destruction inconsidérée de l'environnement. L'environnement est détruit par les autoroutes alors que les métros prendraient beaucoup moins de place. L'environnement est détruit par un urbanisme délirant alors qu'il n'est pas nécessaire que tous les Français se concentrent dans les villes. L'environnement est détruit par l'abus de l'automobile particulière qui est en train de consommer des quantités énormes de pétrole qui nous coûte de plus en plus cher, qu'on devra payer finalement en exportant les armes. Et enfin, toute la série de pollution des airs et des eaux, dont on ne sait pas si ça ne va pas finalement altérer définitivement notre écosystème, dont on ne sait pas si ça ne va pas altérer définitivement les climats, dont on ne sait pas finalement mesurer toutes les menaces que cela fait peser sur nos arrière-petits-enfants.
L'un de vos slogans, ce sera « À bas le béton, vive la verdure ». C'est séduisant, mais c'est un petit peu utopique.
Non, ce slogan a été avancé, mais enfin, ce n'est pas le slogan principal. Enfin, oui, évidemment, on ne veut pas bâtir trop d'autoroutes, n'est-ce pas ? Mais l'important, c'est la destruction de l'écologie menace d'une famine effroyable l'ensemble du tiers-monde. Notre surconsommation de viande nous fait prendre chaque année de plus en plus de céréales. Il y a actuellement à travers le monde des gens qui mangent une tonne de céréales par an et par tête d'habitant transformée sous forme de viande, d'autres qui en sont à 125 ou 150 kilos et qui n'en ont pas assez. Et par conséquent, j'insisterai non seulement sur les menaces que l'environnement fait peser sur la France, mais plus encore sur les menaces que la destruction de l'environnement et la destruction des sociétés traditionnelles fait peser sur l'ensemble des pays du tiers-monde qui sont actuellement affamés. Et la famine mondiale que j'annonçais hélas dès 1966 prend des proportions telles que si nous ne nous rendons pas compte de ce qui se passe, nous allons à des catastrophes effroyables dont on ne peut même pas mesurer l'ampleur.
Alors sûrement quelques ajustements aujourd'hui, mais quand même, on le rappelle, c'était en 1974, hein, on ne change pas grand-chose.
C'était effectivement très prémonitoire. Souvenons-nous de cette campagne où René Dumont s'était rendu célèbre, et ça reste encore dans la mémoire collective des Français, où il avait présenté à la télévision son fameux verre d'eau en expliquant que l'eau serait bientôt une ressource rare et qu'elle pouvait être un facteur de guerre. On voit bien aussi aujourd'hui quelle est la situation dans de nombreuses régions du monde. Sur la famine, il n'avait pas tort. Il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que les famines sont très souvent organisées politiquement. Si par exemple les animistes du sud du Soudan sont victimes de famines régulières ou récurrentes, c'est parce qu'elles sont organisées par les pouvoirs du Nord, qui sont par le pouvoir du Nord, de Khartoum, qui est musulman. Et si aujourd'hui on est au cœur d'une crise alimentaire qui frappe les pays les plus pauvres du monde, pas forcément d'ailleurs les plus pauvres, mais qui frappent de nombreux pays du Sud, c'est bien parce que les grands pays riches ont aidé leurs agricultures, comme par exemple les États-Unis ou l'Europe sur le riz et le coton, les faussant une concurrence qui aurait pu avoir lieu avec les pays du Sud et obligeant les pays du Sud à exporter massivement. C'est ce qui est absolument incroyable. C'est qu'aujourd'hui, ce sont des petits paysans des pays du Sud qui sont victimes de cette crise alimentaire et de la famine. Faut que l'on sache que dans les pays pauvres, les budgets des familles sont 75% du budget des familles est consacré à l'alimentation. Donc, oui, quand vous avez à la fois la spéculation des fonds de pension, qui est des fonds d'investissement aujourd'hui, cette erreur énorme que nous avons commis sur les agrocarburants qui utilisent des hectares et des hectares de terre qui pourraient suffire à l'économie, à l'agriculture vivrière pour nourrir les populations.
25% d'agriculture aux États-Unis aujourd'hui pour les agrocarburants.
Absolument, et quand vous voyez comment des grands pays comme les États-Unis ou des grands continents comme l'Europe ont subventionné leurs agricultures, la France est un des premiers pays au monde en termes d'exportation agricole. Bah vous vous dites que ça porte une concurrence effectivement extrêmement déloyale aux pays pauvres et que la solution serait, comme l'a dit d'ailleurs René Dumont en 1974, la solution serait d'aider ces pays du Sud à favoriser et à développer leur agriculture vivrière plutôt que de forcer les paysans à pratiquer des cultures d'exportation dont ils ne profitent pas.
Alors on va faire, Noël, ma mère, vous la connaissez, mais c'est intéressant de remettre ça vraiment un peu au centre du débat, la différence entre l'écologie scientifique et l'écologie politique, 68, donc les prémices de cette écologie politique. On va d'abord entendre François Ramat, qui est un ancien président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature. C'est un homme en fait qui a plutôt influencé le monde scientifique, mais qui pose bien le décor.
L'écologie est une science dont les limites sont bien définies, et elle traite des relations entre les organismes et leur milieu. Cependant, cette science, par suite de certaines conclusions techniques auxquelles elle conduit, a le privilège de déboucher également dans des domaines qui préoccupent tout citoyen, à savoir ceux de l'environnement. Cependant, par suite de la mode qui s'est emparée du public en ce qui concerne l'écologie, de plus en plus de personnes, plus ou moins qualifiées, se considèrent comme faisant partie de la communauté des écologistes et en viennent à traiter de sujets qui ne les qualifient pas nécessairement. Et je pense qu'il est bon que le scientifique de nos jours quitte sa retraite afin de pouvoir donner des conseils avisés dans le domaine de la protection de l'environnement.
Alors ça, c'était aussi en 1974. La musique était aussi parfaitement d'époque, c'est formidable. On va écouter maintenant Jean Dorst, qui était ornithologue, et puis qui était directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, aussi sur ce même thème.
Une science exacte, sans doute pas au sens propre du terme. Je dirais presque que c'est encore à l'heure actuelle une sorte de science empirique. Qu'est-ce au fond l'écologie? Si nous consultons un manuel, on nous dira que l'écologie est la science, ou la partie de la biologie, qui envisage les rapports des êtres vivants entre eux et qui envisage les rapports de ces êtres vivants avec l'homme. Par conséquent, c'est une science qui nécessairement fait appel à toutes sortes de connaissances. Et au fond, pour être un écologiste complet, il faut être à la fois un peu géologue, un peu climatologiste, zoologiste, botaniste, et il faut donc avoir fait une sorte de synthèse de toute une quantité de disciplines qui, à première vue, sont très éloignées les unes des autres. Et j'ajouterai qu'il faut être non seulement tout ça, mais qu'il faut être également un peu économiste, un peu politique au sens le plus large du terme, par conséquent, pouvoir envisager toute une série de questions. Donc l'écologie est à la fois une discipline, une partie de la biologie, Mais c'est également, et je dirais même plus, une sorte de manière de penser d'une manière tout à fait globale et d'envisager des problèmes qui font appel à des facteurs très différents les uns des autres.
Alors Dorr, c'était un homme quand même assez modéré, on peut le dire, hein, d'un point de vue écologique, mais c'était intéressant d'avoir ce point de vue. Et puis aussi, donc, toujours grâce à nos amis de l'INA, donc même année, 1974, cette liaison homme-nature avec Edgar Morin.
Je verrai plusieurs étages. Le premier étage, c'est la liaison de deux choses. La première, c'est une réflexion au sein de l'université de jeunes chercheurs qui sentent que pour comprendre les phénomènes naturels, non seulement les disciplines traditionnelles ne sont pas satisfaisantes, mais même que l'écologie a toujours été prise dans un sens restreint. Ils comprennent que l'écologie, ça doit être une science de l'interrelation et des interactions très nombreuses, très complexes entre différents êtres vivants dans une niche écologique. C'est-à-dire, bien sûr, c'est inclus dans l'idée d'écologie, qui est une science récente, mais ça prend quand même l'aspect d'une réaction très forte contre le savoir disciplinaire et découpé en morceaux. C'est pour ça que c'est un aspect un peu critique, si vous voulez, qui permet le lien avec la contre-culture. Et l'autre aspect, c'est que la contre-culture, dans cette sorte de réaction très forte contre une société, pas seulement bourgeoise, mais technicienne, abstraite, urbaine, est portée vers le thème de la nature. Alors ce thème de la nature, évidemment, ça paraît être le grand thème permanent, romantique, rousseauiste. Et alors il s'opère une liaison. Dans le fond, je crois que la liaison est celle-ci. Jusqu'à présent, dans l'optique traditionnelle, disons, de notre civilisation, il n'y avait pas de nature. On laissait la nature aux poètes, n'est-ce pas ? Il n'y a que des objets que l'on peut manipuler. Et dans le fond, c'était le fruit aussi bien, disons, du positivisme que de la pensée, enfin la métaphysique, disons, cartésienne, n'est-ce pas, qui fait l'homme sujet, n'est-ce pas, et un monde d'objets. Alors donc, la technique, n'est-ce pas, avait fini par traiter tout l'environnement comme des objets qu'on pouvait manipuler, détruire, on détruit une forêt, on détruit n'importe quoi, etc. Et ce qui s'est passé, je crois, c'est que ce traitement des phénomènes naturels comme objets a commencé à entraîner certaines lésions irréparables, ces phénomènes de pollution.
Alors Noël Mamère, donc on a écouté ces trois témoignages, on voit bien qu'en ce qui concerne l'écologie scientifique et l'écologie politique, ce ne sont pas les mêmes histoires, ce ne sont pas les mêmes origines, ce ne sont pas les mêmes pères. Vous-même, en fait, vous avez été influencé par qui ? Comment vous êtes arrivé à faire de l'écologie politique ?
Alors j'ai été influencé par deux philosophes français, l'un qui s'appelle Jacques Ellul, qui en 1954 a écrit un livre fondateur qui s'intitulait « La technique ou l'enjeu du siècle ». Et dans ce livre très important, Ellul nous a appris que la technique n'entraîne pas forcément le progrès humain et que lorsque la technique n'est pas contrôlée démocratiquement, elle peut même se retourner contre nous et nous avilir et réduire nos libertés.
C'est-à-dire que ce que l'on a gagné comme liberté par rapport à la maîtrise de la nature, on le perd aussi par une autre aliénation qu'est celle de la technique.
Exactement. Et d'ailleurs, le problème qu'évoque, enfin, la ligne dans laquelle s'inscrit Ellul, c'est pas une ligne panthéiste, c'est pas la ligne selon laquelle la nature serait accueillante par définition, c'est pas le complexe Gaïa. Ellul et toute cette famille de philosophes nous apprend que la relation de l'homme à la nature, c'est un combat. Un combat depuis que l'homme est sur la nature, et c'est un combat pour la maîtrise de la nature. Et qu'aujourd'hui, le problème auquel on est confronté avec l'évolution technique, avec les progrès techniques fulgurants, ce n'est plus la maîtrise de la nature, mais c'est la maîtrise de la maîtrise. Et puis il y a un deuxième auteur qui est aussi un Girondin, on les appelait les personnalistes gascons, qui étaient compagnons de route de Jacques Ellul, qui n'était pas très connu en France, qui commence simplement à l'être aujourd'hui, mais qui est très connu aux États-Unis parce qu'il a été traduit par Aldous Huxley.
Ah oui.
Le second s'appelle Bernard Charbonneau. Il a lui aussi disparu à la fin des années 90. Et c'est lui qui était l'auteur de toute une œuvre concentrée sur la question des libertés, en fait, à travers des livres comme Triste campagne ou Prométhée réenchaîné, sur ce qu'il appelait la grande mue. Et c'est là que l'on s'aperçoit que, effectivement, l'écologie scientifique, c'est peut-être un point de départ, mais qu'en aucun cas on ne peut limiter l'écologie à simplement à son aspect scientifique. Aujourd'hui, l'écologie, c'est une conception de la société. Oui. Si aujourd'hui nous disons, par exemple, nous n'avons qu'un seul monde, c'est parce qu'il y a eu des écologistes, à la fois scientifiques et philosophes, qui nous ont expliqué l'interaction des phénomènes. Et qui nous ont appris que lorsque, par exemple, on va détruire des millions d'hectares de forêts en Amazonie, non seulement on détruit la culture de ceux qui vivent de cette forêt, droits de l'homme, mais en même temps, on provoque des bouleversements climatiques.
Mais c'est quand même toujours...
Et que donc, ce qui se passe très très loin de nous géographiquement, finalement, peut avoir des conséquences très directes sur notre vie quotidienne, ou en tout cas sur notre climat et sur notre mode de vie.
Mais derrière tout ça, d'un point de vue économique, social, environnemental, on recherche quand même les équilibres et la diversité.
Le problème, ce qu'a très bien dit Edgar Morin, qu'il a d'ailleurs théorisé plus tard, ce que disait très bien Ellul 20 ans avant lui, dès 1954, ce qu'avait dit déjà Charbonneau en 1932 à travers un manifeste qui s'intitulait « La nature, le sentiment de la nature comme pensée révolutionnaire », ça n'était pas rien, c'est que nous sommes dans un système... L'écologie, c'est la compréhension de la complexité du monde. Mmh. Et donc c'est essayer d'apporter une réponse politique et philosophique à cette question de la complexité. Et aujourd'hui, vous voyez bien, dans les radios, les télés, dans notre façon de vivre, nous essayons de raboter cette complexité, de ramener toujours à ce qui est simple. Oui. Nous sommes même victimes de la tyrannie de la simplification. C'est blanc, c'est noir, c'est rouge, c'est vert. Off, oui. Mais il n'y aurait pas, au milieu de ces deux, de ces deux théories, il n'y aurait pas la place pour essayer d'expliquer que les choses sont complexes. Et donc, par exemple, aujourd'hui je suis un politique, hier j'étais un journaliste, mais dans les deux cas, ma mission, mon devoir, mon rôle, c'est d'essayer d'expliquer la complexité des choses. C'est pas d'attendre, c'est pas de dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, bah oui, les choses sont simples, hein. Ici c'est blanc, ici c'est noir, et puis au milieu il y a rien.
On peut donner un coup de chapeau.
Donc je crois que c'est ça l'essentiel.
Oui. Et on peut donner un coup de chapeau. Je rebondis par rapport au métier de journaliste que vous avez effectué. Un homme qui s'appelle Louis Berriot, d'ailleurs, qui vient de sortir aussi un ouvrage là tout à fait récent.
Les hommes sont fous, pourtant la vie est belle. Lettre à mes petits enfants.
Voilà, aux éditions du Cherche Midi, qui est un truc d'ailleurs assez positif, parce que vous avez, il y avait un jeune journaliste bordelais là qui montait dans la capitale et qui s'est intéressé à la France défigurée.
Oui,
c'est une mission qui a dérangé quand même.
Disons que Louis Berriot a été un des précurseurs dans les grands médias. Il a été l'un des tout premiers à avoir pris conscience de cette complexité du monde et de la nécessité qu'il y avait à considérer que les questions environnementales, conçues au sens large du terme, c'était de l'information. Et qui n'avait pas besoin d'aller à Beyrouth ou je ne sais où pour faire de l'information. Même si c'est nécessaire d'y aller aussi.
Oui.
Et qu'on pouvait trouver des éléments intéressants, non pas à méditer, mais à expliquer au pas de sa porte. Et donc, effectivement, Louis Berriot a joué un rôle très important dans ma carrière, puisque c'est lui qui m'a fait venir à Paris de Mont-Bordelais pour créer avec lui une émission quotidienne qui s'appelait « C'est la vie
oui. ».
Qui a commencé en 1977, et cette émission était la première émission généraliste qui traitait des problèmes d'environnement et de protection du citoyen et du consommateur.
Et déjà, bien sûr, on soulevait des lièvres, donc ça dérangeait, il y avait des
pressions.
Oui,
ça dérangeait, nous avons eu même droit à quelques procès. Le Gaston Defer, je le remercie, à titre posthume, a contribué à me faire connaître en m'intentant un procès parce qu'il avait déclaré dans une émission qu'il n'y avait aucun métro adapté aux handicapés dans le monde, ce qui n'était pas vrai. J'en ai apporté la preuve dans l'émission C'est la vie, puisque nous faisions une série de reportages sur l'adaptation des transports aux personnes handicapées. C'était en 1977. Il y a eu des progrès énormes qui ont été faits depuis, malheureusement. Et puis nous avions été victimes aussi, l'objet d'un procès du roi du poulet. Je crois qu'il s'appelait Tilly à l'époque, parce qu'on accusait effectivement cette société de nourrir ses poulets avec des produits. Effectivement, vous l'avez bien dit, voilà. Et je ne le répéterai pas. Et nous savons aujourd'hui que ce procédé-là s'est répandu, ce qui a donné, entre autres, lieu à cette catastrophe sanitaire qu'étaient les farines animales.
Alors on va se prendre une petite bouffée musicale, ça va nous faire du bien. Buena Vita Social Club.
Écoutez, c'est au de mon amour, à mes poules, à mes lapins et parfois même à mes voisins. Jusqu'à présent, ça les a pas rendus malades.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Cero Cané, llego a Puerto, voy para Miami. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami.
Merci à Carl Levasseur, notre programmateur qui a choisi Buena Vita Social Club Chan Chan. Agréable, c'est bien ça, Noël.
Ah, c'est superbe.
Ça vous plaît. Alors quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un enfant de 68, c'est Pierre Fournier. Alors Pierre Fournier, c'était le fondateur du mensuel écologique La Gueule Ouverte. Et un garçon qui avait plein de convictions, malheureusement qui est mort très très jeune, à 35 ans. Et on va le retrouver alors dans une émission qui s'appelle Terre à Terre, qui est l'émission de ma consoeur de France Culture, Ruth Segazi, qui a son émission de 7h à 8h tous les samedis matins sur Culture. Et donc cet homme-là, Pierre Fournier, qui venait de Harakiri, s'est dit je vais oser parler d'écologie à des gauchistes qui n'en ont strictement rien à faire. C'était quand même ça à l'époque. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça les passionne plus. Mais on va retrouver, donc, lu par un acteur, son premier édito, donc celui de La Gueule Ouverte.
Pendant qu'on nous amuse avec des guerres et des révolutions qui s'engendrent les unes les autres en répétant toujours la même chose, l'homme est en train, à force d'exploitation technologique incontrôlée, de rendre la Terre inhabitable. Non seulement pour lui, mais pour toutes les formes de vie supérieures qui s'étaient jusqu'alors accommodées de sa présence. Le paradis concentrationnaire qui s'esquisse et que nous promettent ces cons de technocrates ne verra jamais le jour parce que leur ignorance et leur mépris des contingences biologiques le tueront dans l'œuf. La seule vraie question qui se pose n'est pas de savoir s'il sera supportable une fois né, mais si, oui ou non, son avortement provoquera notre mort. Bien que quelques fadas n'aient pas attendu l'aurore du siècle pour la concevoir, cette idée est si neuve. Et nous sommes depuis la maternelle si bien conditionnés dans l'autre sens que presque personne encore ne l'a vraiment comprise. Surtout pas les distingués académiciens qui, tous les 28 jours, sur un ton désabusé mais élégant, nous emmènent faire un tour sur la vieille balançoire intellectuelle de la médaille du progrès avec son avers et son revers. C'est trop monstrueux pour qu'on puisse y croire. Les gens sont comme ça. C'est pourquoi la catastrophe, beaucoup plus prochaine que vous n'imaginez, ne pourrait être évitée que par une réforme des habitudes mentales plus radicale encore que celle jadis opérée par les rédacteurs de la grande encyclopédie. Ça représente du travail.
Et c'était très bien écrit, donc, de Pierre Fournier. On se rend compte quand même sur le ton de l'époque. Je veux dire, aujourd'hui, on est des moutons à côté. Hein, mais oui. Ça y allait. Hein, donc,
nous sommes très tendres, rapport à ces années. Pierre Fournier, nous lui devons beaucoup. On ne parle pas suffisamment de lui. C'est bien que vous ayez ressorti cet éditorial. La gueule ouverte, ça a été un élément très important d'abord pour beaucoup d'écologistes et puis dans la prise de conscience de ce qu'est notre planète et de ce qu'elle devient. Bernard Charbonneau, dont je parlais tout à l'heure, tenait aussi une chronique dans La gueule ouverte qui s'appelait La chronique du terrain vague. Et c'est vrai que quelques dizaines d'années après, lorsqu'on relit les éditoriaux de Fournier ou les chroniques de Charbonneau, lorsqu'on revoit les dessins de Jean-Marc Rézère,
oui,
qui était aussi un des précurseurs, on se dit que ces hommes-là avaient quand même une force de caractère absolument admirable, qu'ils nous ont donné beaucoup de leçons, parce qu'ils étaient à la fois très radicaux dans leur conception du monde, dans leur projet de société, mais en même temps, ils savaient nous donner envie de nous battre.
Oui. Et
si
aussi,
aujourd'hui, nous sommes quelques désobéissants, c'est parce qu'il y a eu des hommes comme ça avant nous qui ont su écrire des choses avec lesquelles ils prenaient des risques.
Il y a un homme qui s'appelait bien sûr Henri David Thoreau, vous parlez de désobéissance, qui a écrit La désobéissance civile.
Hein. Oui, alors Henri David Thoreau...
Sur le haut du 19e siècle. Hein,
C'est intéressant de parler d'Henri David Thoreau parce qu'il est connu pour un petit texte qui est le texte d'une conférence qui s'appelle La désobéissance civile, qui a inspiré Gandhi, qui a inspiré Martin Luther King, Beauvais et quelques-uns d'entre nous aujourd'hui. Mais Henri David Thoreau, il appartenait à un mouvement, un philosophe américain, qui s'appelait les transcendantalistes, c'est-à-dire une conception quasiment mystique à la nature, qui a donné naissance à des grandes organisations non gouvernementales, comme le WWF, qui sont plutôt pour la sanctuarisation de la nature. Ce n'est pas du tout le courant dans lequel se retrouvent les écologistes français, derrière des gens comme Elul ou Charbonneau. Et Henri David Thoreau, pour tous les écologistes, il est connu pour un livre très important, qui s'appelait Walden ou La vie dans les bois. Et il était un proche d'un autre philosophe américain qui a beaucoup écrit sur la nature, qui s'appelait Ralph Waldo Emerson. Et ils ont donné naissance, ces gens-là, ces philosophes-là, à des grands mouvements écologistes américains qui ont beaucoup de leçons à nous donner, et à aussi des écrivains. Vous savez qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains qu'on appelle les écrivains de la nature. Et l'un des plus mythiques aux États-Unis s'appelait Edward Hubby, qui a écrit Le gang de la clé à molette. Et à sa mort, il a voulu que l'on disperse ses cendres dans le désert de l'Utah. Mais Le gang de la clé à molette, ce sont quatre bras cassés, des gens très intéressants qui se révoltent contre la détérioration, le déménagement du territoire et les atteintes qui sont portées à ces grands espaces américains. Ce sont les débuts dans les années 70 de l'agitprop.
Alors on va revenir aussi, tout à l'heure j'ai évoqué mais très très rapidement le Club de Rome, parce que là aussi c'est quand même un sacré carrefour. Ça prend naissance en avril 68, hein, ce fameux Club de Rome. Ce qui est intéressant, c'est que au sein de ce club, vous avez non pas des écologistes, mais des industriels, des humanistes comme Bertrand de Jouvenel, des scientifiques, des penseurs. Et donc, ils pensent le monde tout à fait différemment. Alors, ils sortent en 70 un premier rapport qui est Halte à la croissance. Donc là, vraiment, onde de choc, assez costaud, hein, parce que c'était quand même pas simple du tout. Et ils vont crédibiliser, en fait, d'un seul texte ce que les écologistes clament quand même dans le vide depuis un certain nombre d'années. Et on va retrouver le président de ce Club de Rome, Aurelio Peccei, et là nous sommes en décembre 1976, sur les ondes de France Inter.
Si vous dites à quelqu'un qu'il conduit trop rapidement, dans un état d'ébriété, est-ce que vous êtes un catastrophiste ou quelqu'un qui donne un avis amical au conducteur? Le Club de Rome a tâché de donner un avis, de mettre en alerte l'humanité qui pensait de pouvoir continuer à s'accroître matériellement comme population et comme production, consommation, déchets même, sans payer aucun prix, nous avons dit dans le premier rapport, gare à vous, gare à nous, si on continue sur ce chemin, dans le cours d'un siècle, nous avons dit, nous trouverons dans, comme humanité dans des situations totalement irréversibles, irréparables, et nos enfants, probablement, nous paierons le prix de notre imprévoyance. Nous devons faire une place à cette nouvelle humanité. N'est-ce pas ? Nous devons préparer la planète pour recevoir les nouveaux venus.
Sur le plan quotidien, qu'est-ce que, par exemple, le Français moyen ou l'Italien moyen peut faire pour arriver à cela ?
Oui, prendre conscience de ce qui est changé dans le monde. Par exemple, on discute aujourd'hui, et avec un très grand niveau de connaissance d'écologie des pays nantis. Il faut penser à l'écologie du monde entier, car les plus grands dangers nous viendront pas de l'Europe, mais des océans, de l'atmosphère, des pôles.
Et là, donc, il y a eu une véritable écoute. Hein. C'est comme, non, mais vous écoutiez ça, vous Noël Mamère, mais ces gens-là ont quand même donné un bon coup de pied dans la fourmilière parce que, justement, ils n'étaient pas forcément écologistes. Je dirais un peu de la même manière qu'il n'y a pas longtemps, Nicholas Stern, donc économiste britannique, donc a alerté tout le monde en disant « Coucou, si vous faites rien avec le réchauffement climatique, attention, 5 000 milliards d'euros, ça va être dément. » Alors là, on s'est mis à écouter.
Oui, on s'est mis à écouter, puis il faut méditer tout ce qui est dit là parce que ça peut orienter nos sociétés, nos systèmes politiques. Ce qu'il dit Pecci, ce qu'il faut retenir du Club de Rome, c'est ce que vient de dire Aurelio Pecci à l'antenne. Nous allons faire payer à nos enfants le prix de notre imprévoyance. Donc la réalité, c'est que nous sommes là pour préparer nos enfants et nos petits-enfants, les générations futures, et on ne peut pas leur laisser un monde invivable.
Et en rappelant que les générations futures, ce sont nos enfants d'aujourd'hui, c'est pas ceux même qui sont à naître,
parce que les choses s'accélèrent. C'est ce qu'un écrivain qui s'appelle, un sociologue qui s'appelle Alain Gras, appelle la fragilité de la puissance. Nous sommes tellement puissants que nous pouvons effectivement, nous avons les moyens de réorienter la croissance, de protéger l'avenir de nos enfants, mais comme nous sommes tellement puissants, nous avons aussi les moyens de nous détruire beaucoup plus vite.
C'est ça.
Et c'est vrai que les mouvements climatiques, que l'on connaît assez mal d'ailleurs, puisque la climatologie est une science relativement neuve, on les calculait sur des milliers d'années. Aujourd'hui, on sait que les choses peuvent changer en moins de 100 ans, quand on regarde ce qui se passe notamment sur les pôles. Mais le deuxième enseignement qu'il faut tirer de ces avertissements, dont certains d'ailleurs, dans tout ce qu'a dit le Club de Rome, il n'y avait pas que des choses justes, il y avait aussi des erreurs, notamment le fait que la planète ne pourrait pas nourrir tous ceux qui y vivent, ce n'était pas juste. Mais ce qui est très important, c'est de dire qu'il faut lutter contre les menaces qui pèsent sur la planète, qu'elles soient, qui peuvent nous amener le chaos écologique, le chaos économique, le chaos social et même le chaos politique, avec les moyens de la démocratie. Car si nous sommes demain dans une situation de survie parce que nous n'aurons pas mis en œuvre les outils qu'il faut pour lutter contre ces bouleversements et cette forme de chaos, et bien parce que nous serons en situation de survie, ce sera le chacun pour soi. Et nous donnerons, donc ce sera la dénonciation du voisin parce qu'il a consommé trop d'eau par rapport aux normes qui ont été fixées. Nous ouvrirons la porte à des états policiers, à des formes d'éco-totalitarisme.
L'écologie coercitive.
Exactement. Oui. Et les écologistes, en tout cas ceux à qui j'appartiens, se battent pour précisément éviter tout cela. Parce que l'écologie, c'est pas une écologie c'est pas une écologie de la coercition, c'est une écologie de la libération.
D'ailleurs, Pecci disait, pour résumer, on ne résume pas comme ça le Club de Rome, il disait, on n'a pas d'opposition aveugle au progrès, mais une opposition au progrès aveugle.
C'est quoi le progrès ? Effectivement, le progrès aveugle, il faut donner un contenu au progrès, c'est effectivement toute une réflexion philosophique, mais est-ce que c'est un progrès de pouvoir aller plus vite sur un autre continent ? Est-ce que c'est un progrès lorsque des sociétés semencières décident pour des raisons uniquement économiques de mettre la main sur le vivant et de d'entraîner des mutations qui peuvent être irréversibles et dont on ne connaît pas les conséquences. Est-ce que c'est ça le progrès ?
Alors justement, puisque là nous abordons donc le chapitre OGM que vous connaissez bien et donc qui vous tient à cœur, on va dire que le 13 mai, donc là dans quelques jours, va y avoir à l'initiative d'un certain nombre d'ONG, non pas d'OGM mais d'ONG, donc un pique-nique à 13h je crois du côté de l'Assemblée nationale. Donc il va se
tenir. Alors le pique-nique aura lieu à 13h. 13h aux Invalides.
Aux Invalides, pardon.
Il était prévu au départ aux Tuileries, il sera aux Invalides. Et nous allons tenter avec la Confédération paysanne et d'autres des organisations non gouvernementales. C'est une idée qui est partie de José Bové, je crois, il a eu raison, d'essayer de faire une chaîne autour de l'Assemblée nationale pour éviter la contamination de l'Assemblée nationale. Ce sera peut-être un peu difficile à cause de la police et de la position qui sera prise par la préfecture. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve scandaleux la situation qui est faite aujourd'hui. Je trouve ce projet de loi scandaleux. Je trouve que l'attitude qui a été adoptée par le Sénat en deuxième lecture l'est tout autant, puisque ce projet n'est absolument pas conforme à ce qui avait été voulu et proposé par le Grenelle de l'environnement.
On va d'ailleurs saluer quand même le courage de Nathalie Kosciusko-Morizet.
Nathalie Kosciusko-Morizet a été humiliée par les siens. Et jamais les députés de droite n'auraient osé s'attaquer avec une telle violence à un homme. Et Nathalie Kosciusko-Morizet a été effectivement courageuse. Et c'est avec sa complicité que notre collègue André Chassaigne, qui appartient à mon groupe politique, la gauche démocrate et républicaine, a pu présenter ce fameux amendement 252, après lequel a été créé un comité. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site du comité 252.org. Il y a déjà plus de 40 000 signatures. La réalité, c'est que cet amendement consistait à protéger l'agriculture de qualité, les labels, toutes les appellations d'origine contrôlées.
C'est bien pour ça que les députés
et aujourd'hui,
aussi
elles sont menacées.
Mais les députés de droite, d'ailleurs, ont bien compris aussi l'intérêt de ceux qui habitent dans ces coins-là.
Assez peu. Quelques-uns qui nous ont permis d'obtenir une majorité. Mais la réalité, c'est que les lobbies ont l'air beaucoup plus puissants que la raison, et que la raison politique, puisque en deuxième lecture au Sénat, un bricolage a été apporté au texte qui ne change rien à l'économie du texte et à sa philosophie. Et nous allons être, à partir du 14 mai, nous allons être réunis à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture. Il y aura sans doute, on peut le dire aujourd'hui, une majorité pour voter cet article premier qui autorise la culture avec ou sans OGM et qui donc autorise la contamination des OGM.
Qui ne se passe pas que par le pollen.
Qui autorise la contamination de cultures conventionnelles ou biologiques par des OGM.
Parce qu'il y a aussi le transport et le stockage. Et donc, est-ce que la filière sera responsable? C'est ça aussi. Est-ce qu'il y aura des...
Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de paysans qui commencent à critiquer ce projet de loi sur les OGM, puisque ce ne sont pas les filières qui sont responsables, mais les cultivateurs, enfin les agriculteurs qui cultivent des OGM qui sont responsables des dégâts qu'ils provoqueront chez les voisins. Et quand on nous dit qu'on fixe des barrières qui vont être respectées de 100 ou de 400 mètres, c'est oublier que récemment, deux agriculteurs de la région des Deux-Sèvres ont vu leur parcelle de maïs traditionnelle contaminée par une parcelle de maïs transgénique qui ne se situait ni à 100 mètres ni à 400 mètres, mais à 25 km. Et expliquer à ceux qui nous écoutent que dans des pays où on a cultivé d'une manière très très large et très très intensive du colza ou du maïs transgénique, il n'y a plus de possibilité de cultiver du colza conventionnel, c'est le cas du Canada, ou du soja par exemple, du soja conventionnel, c'est le cas de l'Argentine, qui s'est lancé dans le soja transgénique massivement au moment de la crise de la vache folle en Europe.
Oui, parce qu'on va quand même rappeler que le soja transgénique est quand même la première céréale qui est cultivée, sert principalement à nourrir
les animaux, des pays
occidentaux.
Les animaux que nous mangeons, puisque avec la crise de la vache folle, les farines animales ont été interdites, et on ne sait pas du tout, parce qu'on n'a pas le recul, ce que ça peut entraîner sur la santé humaine. En tout cas,
même si aujourd'hui, il n'y a rien d'avéré.
Même si aujourd'hui, il n'y a rien d'avéré, mais vous savez, vous avez quand même le souvenir de l'amiante. On nous a raconté pendant 30 ans que l'amiante, c'était bon pour la santé. Et aujourd'hui, on voit l'importance des cancers du mésothélium.
Alors ça, on va vous dire, vous faites des amalgames. Ça va être, ça...
C'est pas un amalgame, non. C'est une réalité, c'est une question de santé publique. Ce n'est pas pour rien que Mme Kosciusko-Morizet, qui était chargée par le président Chirac du rapport sur la charte de l'environnement, ce n'est pas pour rien que nous avons été réunis en congrès à Versailles pour introduire le principe de précaution dans la Constitution. Donc aujourd'hui, la Constitution française dit que l'environnement, c'est notre propriété collective. C'est un bien commun. Et que toutes les atteintes qui sont portées à cette propriété collective peuvent être condamnées. Donc c'est toute la question de la criminalité écologique à laquelle il va falloir donner une portée juridique. Un premier pas a été franchi lors du procès de l'Erika, où les juges ont parlé de préjudice écologique.
Et on a donné un prix au vivant, on a commencé à donner un prix au vivant.
Exactement.
Et bah écoutez, merci.
Alors c'est pas un combat d'arrière-garde que nous menons, et nous ne sommes pas contre les OGM, il faut le dire. Si aujourd'hui il y a de l'insuline, pour soulager les diabétiques, c'est parce qu'on a travaillé sur des organismes génétiquement manipulés en laboratoire, mais qui n'étaient que des outils. Là, aujourd'hui, il s'agit de transformer le vivant, et non seulement de le transformer, mais de le breveter, c'est-à-dire de s'en rendre propriétaire.
Alors, vous voyez, on est parti quand même d'assez loin, hein, donc, pour arriver à l'écologie politique, et aujourd'hui, donc, sur ces différents combats. Je vous renvoie à trois ouvrages. Celui de Yves Frémion, Histoire de la révolution écologique, aux éditions Hoébec, qui est très bien fait, ainsi que celui de Roger Kans. On va le saluer parce que Roger est un homme qui a occupé les pages du Monde en environnement pendant de nombreuses années avec Petite histoire du mouvement écolo en France aux éditions Delachaux et Niesley. C'est vraiment très bien.
Et puis il y a un successeur aujourd'hui au Monde qui est très compétent, qui s'appelle Hervé Kempf.
Oui, oui. Et on va d'ailleurs effectivement en parler avec Jean-Marie Pelt dans deux semaines, me semble-t-il, donc par rapport à son livre Les riches détruisent la planète. Des cancres à l'Elysée, ça c'est de Marc-Ambroise Rendu aux éditions Jacob Buvernet, donc intéressant aussi de voir ce qui s'est passé. Et puis, merci donc à vous, Noël Mamère.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis à très bientôt.